VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 18h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. En RCA, les Centrafricains toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement, près de 10 jours après la nomination du nouveau Premier ministre. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Ce gouvernement tant attendu est le tout premier depuis le retour à l'ordre constitutionnel après 3 années de crise militaro-politique dans le pays. 9 jours aujourd'hui après la désignation de Simplice Mathieu Sarandi comme Premier ministre, ce gouvernement n'est toujours pas rendu public. Pour la population centrafricaine, cette nouvelle équipe doit contenir des technocrates. Les priorités devaient être la sécurité et le désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des ex-combattants. Une première consultation avec les forces vives de la nation sur la configuration de ce gouvernement dit de rupture avait été organisée par les nouveaux chefs de l'exécutif. C'était au palais présidentiel au lendemain de la prise de fonction officielle du nouveau président Faustin Archange Touadéra. Depuis lors, plus rien d'officiel. Même si dans l'entourage du président et du premier ministre, on parle de derniers réglages à faire. L'attente des Centrafricains se poursuit. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad voisin, le dépouillement du vote à la présidentielle du dimanche 10 avril continue. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais certains électeurs n'ont pas pu voter pour cause d'insuffisance de bulletins de vote. Le point avec notre envoyé spécial N'Djamena Bagassi-Koura.
Hier dimanche, la mobilisation était bien au rendez-vous. De longues files d'attente étaient visibles une bonne partie de la journée devant la plupart des bureaux de vote. Il y a 13 candidats en liste, dont le président sortant Idriss Déby Itno. Ce dernier a voté vers 8 heures dans un bureau au centre de la capitale.
Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux. Nombreux. Et faire leur choix. Leur choix. Il n'y a ni pression. Et tout doit se passer dans la transparence la plus totale.
Son principal opposant, Salé Kebzago, a voté lui vers 10 heures devant son domicile dans le quartier Paris-Congo, dans le 6e arrondissement.
J'ai entièrement confiance dans le peuple, dans sa résolution de changement. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voyez des colonnes entières d'hommes et de femmes devant les bureaux de vote, c'est justement la preuve de cet engagement, de cet engouement, de cette volonté inébranlable de changement. C'est tout cela, je pense, qui motive les Tchadiens. C'est cela qui nous renforce dans notre conviction que notre pays va enfin se libérer du joug de la terreur.
Dans le bureau de vote 1, carré 24 de N'Djamena, on a dû refuser les nomades et les déplacer par défaut de bulletins supplémentaires. Daouda Kigangari est le rapporteur du bureau.
Donc chaque fois ici, les nomades viennent, et les déplacés viennent se lamenter, tout ça. Là. On a appelé la CENI, bon, puisqu'ils vont passer nous voir, jusqu'à là, on n'a pas vu.
À Boutal Bagara, un quartier à la périphérie est de N'Djamena, les choses ont mal tourné.
Depuis 9h, on n'arrive même pas à trouver les bulletins pour voter. Depuis 9h, il n'y a même pas de bulletins.
Au lieu de recevoir des bulletins de vote, c'est plutôt un déploiement important des forces armées auxquelles les électeurs de Boutal Bagara ont eu droit. Dona Bankali Tchakoto est l'un de ceux qui n'ont pu voter.
Comme ils ont déjà commencé à nous menacer avec les gaz lacrymogènes et avec les armes, vous entendez les tirs maintenant là, et on ne va jamais céder. Tant qu'ils veulent ou non, on décide ensemble de mourir. Et ils n'ont qu'à nous tuer comme ils ont l'habitude de le faire. Moi, je me sacrifie.
Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Afrique.
À noter que les réseaux Internet sont coupés à N'Djamena depuis hier. Les SMS ne passent pas non plus sur le réseau local et la capitale est sous forte présence militaire. Selon l'AFP, ces mesures d'isolement nullement expliquées par les autorités empêchent de fait les opposants de communiquer entre eux au sujet des conditions de déroulement du vote de dimanche auquel se présentaient 13 candidats, dont le président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans qui brigue un 5e mandat. Au Soudan, les électeurs ont commencé à voter au Darfour dans l'ouest du pays pour un référendum sur le statut administratif de cette région troublée. La population a jusqu'à mercredi soir pour décider si elle veut conserver la structure actuelle du Darfour divisée en 5 États ou de les fusionner en une seule et même région. La première option est soutenue par le président Omar al-Bashir, mais critiquée par les observateurs qui affirment qu'elle renforce encore davantage le contrôle du pouvoir central sur cette région d'environ 500 000 km² dans le sous-sol où celles d'importantes richesses, notamment pétrole et uranium. La consultation est Boycotté par les groupes rebelles, les insurgés estiment que le conflit dans la région n'est pas propice à l'organisation d'une consultation électorale. Soudan du Sud voisin, 1370 soldats et policiers ex-rebelles sont arrivés à Djouba, la capitale, pour garantir la sécurité de l'ancien chef de la rébellion, Riek Machar, nommé vice-président en février, qui doit lui y revenir lundi prochain pour former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. Le retour de M. Machar à Djouba entre dans le cadre de l'accord de paix conclu avec M. Kiir le 26 août 2015, qui a mis fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, fin dimanche à Bamako, des journées de réflexion sur l'intégration des ex-combattants rebelles dans l'armée nationale. À l'ouverture de cet atelier, le 7 avril, le ministre malien de la Défense, Hubert Koulibaly, avait lancé une mise en garde pour éviter un recrutement au rabais et la signature de chèques en blanc. Combien d'ex-rebelles pourront entrer dans l'armée nationale? Les explications du ministre Koulibaly au micro d'Idriss Fall.
Combien d'hommes vont intégrer, ça dépend de ceux qui pourront passer l'ensemble des étapes. Il y a un processus DDR en cours dont l'intégration est un des volets suite au cantonnement. D'abord recueillir la liste de ceux qui ont pour volonté de continuer à servir dans le métier des armes. On va dire qu'il y a les forces de défense et les forces de sécurité, il y a certainement aussi des corps paramilitaires. Maintenant, il y a tout un processus qui va des épreuves physiques, des étapes médicales, ceux qui seront aptes sur la base des critères ordinaires de sélection et de recrutement dans l'armée seront formellement identifiés pour servir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un chiffre.
Comment pourra-t-on éviter les erreurs du passé? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui avaient fini par retourner leurs armes contre le Mali.
Oui, bien sûr. Les erreurs du passé font partie des éléments d'analyse et de discussion de cet atelier de réflexion initié par le ministère de la Défense. Par ailleurs, cette remarque est d'autant plus importante à faire que la crise qui nous a occupés depuis, enfin on va dire 2012, mais sinon c'est une crise qui a commencé un peu avant, est différente des rébellions des années 90 ou celles d'avant. Cette fois-ci, nous avons affaire à des mouvements terroristes, nous avons affaire à des narcotrafiquants, nous avons affaire à des individus qui se servent du prétexte religieux pour s'engager dans des aventures de violence. Donc tout ça nous amène à être extrêmement prudents, à avoir des méthodes très rigoureuses pour faire en sorte que ceux qui vont être retenus pour servir sous les drapeaux soient d'abord des Maliens, il n'y aura pas d'étrangers. Et deuxièmement, ceux qui vont être là ne doivent pas souffrir d'une quelconque procédure judiciaire pour crime de sang ou pour narcotrafic. Et puis, ne doivent pas faire partie des fichiers de ceux qui sont identifiés comme étant des terroristes.
Si on intègre, ça va augmenter les troupes. Donc, ça va coûter de l'argent. L'argent va venir d'où?
Mais le Mali s'occupe de son armée. Ceux qui vont être intégrés dans l'armée seront des effectifs maliens. Ma foi, qui émargeront sur le budget national, comme cela se fait dans tous les pays. Cela dit, le processus d'insertion économique et sociale va être soutenu par la Banque mondiale et d'autres partenaires, de manière à ce que ceux qui ne seront pas retenus ou ceux qui ne voudront pas continuer dans le métier des armes donnent une autre orientation à leur vie, seront aidés pour cela. Mais les militaires, sur la liste des effectifs des forces de défense et de sécurité du Mali, émargeront au budget national.
Hubert Koulibaly, ministre de la Défense du Mali. En Guinée, l'opposition ne veut pas que l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidi Touré, soit compté parmi ses représentants au sein de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le rapprochement de l'UFR avec le président Alpha Condé en est la cause. Les partis politiques issus de l'opposition républicaine ont d'ailleurs suspendu leur participation aux activités de la CENI. Élection aux Comores, le dépouillement se poursuit après un vote qui a été marqué par des incidents à Anjouan, l'une des 3 îles de l'archipel. Il s'agit de départager les 3 candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle, à savoir le représentant du pouvoir Mohamed Ali Soili, dit Mamadou, qui fait face à l'ex-putschiste Azali Assoumani, qui avait gouverné le pays de 1999 à 2006, et aussi à Mouini Baraka, gouverneur de la Grande Comore. D'après la constitution comorienne, la présidence tourne revient cette fois-ci à la Grande Comore. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.